Nous sommes dimanche 12 mai et vous écoutez le 44e épisode Phase B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le si ne vous voulez pas. Salut les joueurs! Salut les joueuses, et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Comment ça va?
Pas bien.
Bah moi aussi, ça va. Ouais. On est passé à la couac, tranquille, pour voilà. La phase B.
Normal.
Et puis...
Phase B comme bière.
Phase B comme couac. Et bien, je vais bien participer dans cette phase B. On a beaucoup parlé d'Ascension, on parle beaucoup de deck building game ces derniers temps.
C'est pas moi en ce moment.
C'est pas toi.
Non, c'est pas moi qui en parle.
Non, c'est moi. C'est moi.
C'est comme ça. Mais c'est normal, tu chemines lentement sur la voie du joueur supérieur.
Et bien, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance, en fait, d'essayer Trends, qui a pu faire quelques parties de Trends, dont on avait parlé en disant on l'a toujours pas essayé alors qu'on l'avait acheté en blind à Essen. Et puis Copycat, qui était. Donc, c'est Fremden, quelque chose.
Ouais, Fremden, Fremde.
Qui est Copycat, c'est les tueurs en série qui copient les manières d'autres tueurs.
Là, c'est un auteur en série.
Et là, c'est un auteur en série qui a récupéré des mécaniques de Dominion, Agricola, Scroogey Edges, pour faire une réussite. Je voulais vous parler aussi de Naufragé, qui m'était présenté par Yellow, par Mathieu, avec lequel on a fait une partie. Et puis, Smash Up.
Smash Up, c'est rapide. C'est un yellow.
Et peut-être CO2 si on a le courage. Voilà.
Il faut pas qu'Olivier soit trop bavard. Donc.
Et bien, on va s'y mettre tout de suite. Alors, Trends versus Copycat. Trends versus.
Tu fais un versus ou tu les présentes?
Non. Donc, Trends versus Copycat. On va commencer par.
Round 1.
Pardon?
Bah, c'est Fight.
Fight, round 1. Donc Trends, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour une durée de 45 minutes, 12 ans et plus, Ozaku Brand, réédité chez AEG, et puis peut-être, éventuellement, mais pas chez Yellow, une version française. On va commencer par la partie qualité de l'édition, mais ça vous en foutez un petit peu parce que de toute façon vous ne l'aurez pas.
Pas la version japonaise, non, qui est très très belle.
Bah, la version japonaise est bien, c'est-à-dire qu'au niveau l'édition, de la qualité de l'édition, les cartes sont
les
pas mal.
Chouchou, ouais.
Le plateau est pas mal. On trouve dans la boîte plus de 200 cartes, 200 ou 300 cartes.
Ouais, c'est comme Dominion, quoi, c'est beaucoup de cartes.
C'est ça. Mais c'est une boîte qui ressemble pas à Dominion, c'est-à-dire qu'il n'est pas carré, elle est plutôt rectangulaire, elle est un peu étirée.
C'est un marché japonais, hein.
C'est-à-dire
qu'ils n'ont pas beaucoup de place, donc.
La boîte est très remplie.
L'avantage, c'est que la boîte est très remplie. Par contre, du coup, y a pas de quoi classer les trier les cartes comme dans Dominion, ce qui est très pratique.
Pas de thermoformage. Ouais. Mais.
Tu as quand même tout protégé, toutes tes cartes.
Oui, tout à fait, pour qu'ils soient complètement neufs quand je le revendrai.
À une fortune.
C'est collector. Tu parles de. On parlait de beauté.
Beauté. La boîte, j'adore, elle est belle.
Ouais.
Cette illustration qui montre le réseau très abstrait.
Et puis un train.
Un train.
Un train très, très concret, puisque c'est du photoréalisme. C'est-à-dire que sur toutes les cartes, tu as une photo.
Ouais. Ça coûte moins cher, mais les illustrateurs, tu vas sur les voies, puis tu prends la photo.
Tu vas quand même payer les photos, hein, même si ça coûte moins cher. Je pense quand même que tu dois avoir une banque d'images.
Ils ont pris leur Nikon, ils y sont allés eux-mêmes faire la photo.
Alors, tu as des trains, le train express, le train de voyageurs, le train de fret. Le train rapide. Et puis, t'as aussi des choses un peu plus incongrues. Les signaux, la signalisation, ce qui tombe en panne tout le temps à la SNCF.
Oui, officiellement.
t'as pas un incident de voyageur. Tu as le bureau de la SNCF locale, des ponts. Enfin, t'as des choses complètement incroyables. Des rails aussi. Voilà.
C'est très important.
T'as pas que des trains.
Y a pas que les trains dans la vie.
C'est fou. Non. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect graphique. Ça a été repris chez AEG avec une patte un peu plus.
Il y a quand même un plateau sur lequel on va poser.
Oui, mais ça, c'est
un design, je trouve, très jeu RPG, jeu vidéo RPG, quoi, le vert des plaines.
Vieux et fonctionnel.
Ouais, c'est ça.
Alors c'est très. C'est pas pastel, léger. C'est flashy. À l'épaisseur du carton.
Ouais,
ça va, le plateau est correct.
Oui, le vert, moi je trouve, c'est vert flashy, c'est vert comme je dis, comme dans les jeux vidéo quoi, japonais.
Mais ça, c'est pas très grave parce que, en fin de compte, ce qui vous intéresse, c'est pas la version japonaise que de toute façon vous toucherez pas, c'est plutôt la version LG qui n'est pas encore sortie. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir en quoi Trends se démarque d'un Bête Dominion. Parce qu'à la base, on est quand même dans.
Moi, je comparerais à Thunderstone plutôt qu'à Dominion, mais. Non. Mais j'y ai pas joué donc.
Comme à Dominion, comme à Thunderstone, on va avoir 8 cartes fixes, qui sont des cartes de train, qui sont des cartes de déchets, qui sont des cartes qui vont de toute façon nous servir à faire avancer le jeu, qui sont des cartes aussi qui vont nous permettre d'étendre les voies, et puis d'augmenter la capacité des villes. 8 cartes fixes, 8 cartes choisies, donc 16 cartes. Comme à Dominion, est-ce que je reproche un petit peu dans les deck building games qu'on connaît, technique, c'est de dire, on va falloir choisir, et je vais mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela, avec une probabilité de temps de voir sortir l'un ou l'autre. Bon, l'idée, c'est comme à Dominion, d'avoir le plus de points de victoire possible à la fin de la partie. On gagne des points, comme à Dominion, avec les cartes. On a en fait des points de victoire exactement comme à Dominion. On a des points de victoire, on a de l'argent et puis des points de victoire qu'on peut acheter maintenant dans sa main. Les points de victoire ne sont pas les seules cartes mortes du jeu, puisque quand on va agrandir son réseau ferroviaire, quand on va relier des villes et quand on va construire des gares dans les villes, on va avoir des déchets. Ces déchets, on va les avoir en main et on peut assez facilement s'en débarrasser, mais ça fait des cartes mortes.
C'est les ruines de Dominion.
Et c'est quelque chose qui change un petit peu la donne, c'est d'avoir... mais tu les as de base et en fait, tu te les tapes dès le départ du jeu. Et ce qui change vraiment Dominion, c'est l'interaction que tu vas avoir avec les autres joueurs sur le plateau. Le plateau, un peu à l'image de ce qu'on peut connaître pour un Age of Steam, tu vas avoir de la plaine, des rivières, de la montagne, et puis ensuite, tu vas avoir des villes ou des villes lointaines. Les villes, tu vas avoir deux ou trois gares, donc elles sont bleu-grises quand tu peux n'avoir qu'une seule gare. Chaque gare, la première gare va te rapporter 2 points, la deuxième gare va te rapporter 4 points, et la gare suivante va te rapporter 8 points. Non, c'est pas ça. C'est 2 points pour une gare, 4 points pour 2 gares, et 8 points pour 3 gares.
Que tu as construit sur le plateau.
Que tu ou que nous avons construit sur le plateau. Parce que c'est ça le sel du jeu, c'est de savoir plus que combien tu as de points de victoire dans ta main, combien tu as de points de victoire sur le plateau. Et comment tu vas te développer pour aller chicaner les autres, profiter de ce qu'auront fait les autres, et puis aider ou pas les autres joueurs. Et c'est là la vraie démarcation.
En fait, c'est un Indigo deck building game.
C'est un Indigo deck building game. C'est tout à fait ça. Ouais. Si. C'est tu crées tes connexions, tu te rapproches des autres, ou alors tu joues dans ton coin. Et en fonction de la topologie du site, de la carte.
T'as deux cartes dans la boîte.
T'en as plus que ça. Enfin, dans la boîte de base, t'en as.
Nous, on avait eu en extension.
Et après, extension. Ouais. Et puis c'est le Japon en fait. T'as deux coins du Japon. Et en fait, en fonction du terrain, parce que les terrains vont être plus coûteux à traverser, et puis en fait, ça va te coûter aussi de l'argent, de plus en plus d'argent en fonction de l'état de la ville. Plus ça sera gros, ça aura des cubes des autres joueurs et des gares, et plus ce sera cher d'y rentrer. Et la vraie interaction, en fait, elle se fait là, et le sel de jeu, il se fait là. Et je n'ai pas trop accroché.
T'as joué à 2, à 4 ?
Non, j'ai joué à 3.
D'accord. Et t'as pas accroché ? Trouvé 3 abstrait ?
Je trouvais ça intéressant. Non, je trouvais ça intéressant parce que c'était une mise en pratique de la mécanique.
Tu vois DBG, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que
pour core gamer.
Tu dis, est-ce que je veux de l'argent ? Est-ce que je vais miser sur l'extension de mon réseau ? Donc je vais acheter des poses de rail. Est-ce que je vais essayer de virer rapidement les déchets ? Est-ce que je vais... Il y avait deux sortes. Dans le scénario de base, comme dans Dominion, tu as des scénarios qui sont proposés et te proposent des cartes qui te permettent de virer des déchets, voire même avoir de l'argent contre les déchets.
Oui, les cartes pour débuter, quoi. Ils sont plus
faciles. C'est ça. Et je pense que ça, c'est une grosse rejouabilité, mais... Est-ce que ça a un vrai intérêt par rapport à un Dominion? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un vrai intérêt par rapport à un Ascension? Eh bien, je ne crois pas.
En fait, l'interaction qui est amenée par la carte, etc., ne justifie pas, c'est pas suffisant pour justifier par rapport à d'autres jeux.
Si, mais je pense que c'est fini, si tu veux. Enfin, fini dans le sens...
Ça évoluera pas.
Bah, ça va évoluer, mais
enfin, en fait, les extensions, ils vont les faire au travers de cartes.
Oui.
Enfin, de cartes, de plateaux de jeu, on va dire.
Ouais, mais même. On a essayé les deux côtés de la carte principale.
D'accord.
Je suis pas convaincu, en fait.
Donc, c'était heureux de l'avoir acheté, Aeson.
Oui. Ça, je le revendrai.
Je sais pas comment ça peut...
50 euros.
Vite. Ouais, de toute façon, tu peux pas perdre 2 euros là-dessus.
Non, mais bon, voilà. Donc, c'est pas un mauvais jeu. C'est trop proche de Dominion. Et même si ce que ça apporte est intéressant, pour moi, ça m'a pas convaincu. Donc, à voir après ce que les autres critiques qu'on aura. Mais je suis pas convaincu. En parallèle, est sorti Copycat, toujours Aeson dernier. Donc, Copycat, c'est Friedman Friseux. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 90 minutes, donc qui est censé être plus long à partir de 13 ans, et qui est anglicisé par Rio Grande Games. Au niveau du thème, c'est pas sexy du tout, du tout, du tout. Et parce que ça parle de politique, en fait. Donc c'est un thème où tu vas avoir
oui, une
campagne
électorale politique,
et
ouais.
Il faut...
Mais c'est un jeu allemand, donc c'est plaqué.
Ouais, c'est plaqué, c'est tout à fait plaqué. C'est juste tout à fait plaqué. C'est clairement le thème. Tu aurais pu, ça pourrait être la vente de volailles ou la vente d'animaux ou je sais pas quoi, mais c'est la même chose. Ou ça peut être la conquête de l'espace. Enfin, ça se pète vraiment n'importe quoi. Les graphismes, c'est ceux qu'on rencontre dans tous les Friedman Freeze. Je dis peut-être une connerie. C'est pas la même personne.
De quoi?
Qui a fait les graphismes?
Que d'habitude?
Ouais.
Ça ressemble quand même vraiment à sa patte. Hein. Au niveau du choix des couleurs, déjà.
Ouais, bah c'est aimer. Vert. C'est green.
Faut aimer, et puis ouais. Même le design, hein, le dessin et tout.
Et Copycat, bah, il l'affiche clairement. C'est un jeu, il a pris Dominion, Agricola, Through the Edges, il a fait un jeu. Alors il a pris Dominion parce que au début de Copycat, on va avoir comme donc Dominion ou comme dans Trends, 10 cartes en main. On va avoir 8 pièces d'or et 2 points de victoire. On va en piocher 5, on va les jouer. Et puis, bah, comme nos dominions, on va renouveler sa main comme ça. Il y a une petite connotation agricola, parce que c'est un jeu de peau d'ouvriers. C'est-à-dire qu'en plus des cartes qu'on a en main, on va avoir 3 ouvriers. Et les ouvriers, on va pouvoir les poser sur le plateau, parce que comme à Trance, il y a un plateau avec des actions possibles. Et les actions possibles, ça va être gagner de l'argent, 2 pièces d'or une pièce d'or, gagner des points de victoire, 2 points de victoire ou un point de victoire, piocher des cartes. Ça peut être aussi acheter, puisqu'il y a moi ce que j'appelle la rivière, mais qui est effectivement la zone centrale de Through the Edges. Oui, tu veux le sortir?
Vas-y. Ouais, je vais prendre le matériel. Je l'ai chez moi, mais c'est longtemps que je n'ai pas ouvert. Ouais.
Et bah, ces trois partisans, on va pouvoir les jouer. On a 11 tours et on va pouvoir, chacun à son tour, poser des partisans sur le plateau pour avoir des actions supplémentaires, dont l'action acheter des cartes, en fait, qui n'est pas une action de base comme on peut avoir, par exemple, chez Ascension, mais qui va nous permettre, c'est une action qu'on va acheter, en fait, avec un partisan. Là où c'est intéressant, le jeu, globalement, me plus que Trends, mais là où c'est un petit peu malin, c'est qu'on va tous avoir des cartes, nos 5 cartes, et qu'on va miser pour la place dans le tour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on achète des cartes, elles vont être de plus en plus puissantes, et elles vont avoir un chiffre de plus en plus important. Et au début de chaque tour, quand on aura nos 5 cartes...
Comment ça se fait que tes cartes soient plus puissantes?
Parce qu'en fait, la rivière, tu l'as fait. Il y a 5...
D'accord. Un peu comme les centrales...
C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est fait pour que plus ça va, et plus tu vas avoir d'impact...
Ouais, c'est pas le cas dans l'Ascension, par exemple.
Non. Donc
c'est pour ça que je pose la question.
Non. Mais là encore, comme j'ai dit que c'était un jeu entre guillemets fini, Trends, là c'est un jeu qui est fini. C'est-à-dire que.
Ah oui, il fera pas d'extension.
Non, il ne fera pas d'extension.
Il fera pas comme Funkenschlag.
Peut-être, mais il n'y a pas de raison,
mais
à mon avis. Non, il n'y a pas de besoin. Donc, 11 tours. Au début de chaque tour, on va miser. Donc, on prend une de ces 5 cartes, on va le poser. Et puis, après, on va jouer. On va chacun à son tour, dans la deuxième phase, poser l'un après l'autre un partisan. Il y a une possibilité d'avoir plus de partisans. Il y a une possibilité d'avoir plus de cartes. Donc on a pas, on aura 4 cartes au début, mais on peut en avoir une de plus, deux de plus, trois de plus. Donc on combote comme ça. Et puis la possibilité de faire des achats. On va récupérer sur la ligne, je vais encore employer le mot la rivière, on va acheter des cartes. Et ces cartes, elles vont être valorisées en fonction de leur ordre d'arrivée. Les 4 premières coûtent le prix indiqué sur la carte. Ensuite, elles sont valorisées d'une pièce d'or. Et ensuite, les 3 dernières sont valorisées de 2 pièces d'or. Donc, les dernières arrivées sont les plus chères, mais les plus puissantes. Et donc, là, on est plus dans un ascension qu'un on est plus dans un ascension que dans un dominion. C'est-à-dire que les cartes que c'était plus dans l'opportunité en fait de stratégie que non vraiment je veux ces cartes-là. Tu fais toujours ton deck, c'est-à-dire que tu choisis d'acheter des cartes qui vont plutôt te rapporter de l'argent, te rapporter des points de victoire ou te permettre d'avoir plus de meeple, de partisans. Mais t'as pas le même sentiment que quand tu joues à dominion. C'est-à-dire que c'est vraiment opportuniste, parce qu'en fonction du nombre de personnes qui va y avoir autour de la table, tout sera pas disponible.
C'est l'effet rivière qui fait ça.
L'effet rivière, ouais. Et puis, t'as cette connotation aussi d'interaction forte avec la bosse d'ouvrier, où tu vas dire ouais, ok, alors il faut que je joue pas trop en retard, donc il faut que je mette une carte un peu forte, parce qu'il me faut absolument plus d'or pour pouvoir payer mon achat, parce que là, dans ma main, j'ai pas assez d'or, donc il faut que j'ai le plus 2 en pièces d'or, ou le plus 3 en pièces d'or plus tard. Et c'est vachement malin. Ça, c'est un truc qui est vachement malin. Mmh. Et je le disais dans le 44A, il y a un autre aspect qui est vachement intéressant. C'est que dans un deck building classique, tu vas chercher à mettre en marche un moteur, en fait.
Une économie.
Une stratégie, en disant, ben voilà, je vais acheter plus de partisans, comme ça j'en aurai plein, je vais pouvoir en mettre plein. Là, c'est beaucoup plus opportuniste. Et surtout, quand certaines cases ne sont pas utilisées, c'est-à-dire que c'est des bureaux en fait, et quand des bureaux ne sont pas utilisés, ben tu les valorises avec des points de victoire. Et on s'est retrouvé, on a fait une partie à deux avec mon fils, on s'est retrouvé à avoir des bureaux qui étaient valorisés de 3 points de victoire. Tu as des cartes qui te permettent de doubler tous les points de victoire que tu fais dans un tour. Et donc, c'est vachement puissant. C'est-à-dire que tu vas... Ouais. Je répète, il n'y a que 11 tours au total. Quand tu peux faire 9-10 points dans un tour, le jeu s'arrête à 95. Tu as déjà fait 20 points. Tu peux faire 20-30 points.
Tu peux pas dépasser 95, tu peux
faire. Non, ça s'arrête à bout de 95. C'est soit 11 tours, soit 95, soit quand on arrive à la fin des cartes.
D'accord.
Et donc, j'ai beaucoup plus aimé Copycat que Trends. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'interactions, que c'était plus opportuniste que technique. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de faire des choix en disant est-ce qu'il vaut mieux que je fasse plutôt.
C'est pas cohérent avec le fait que tu aimais bien.
C'est avec mes goûts,
en fait, c'est, ouais, ça reste. J'ai toujours pas joué en fait, donc je peux pas.
À Copycat ou Ascension ?
Non, bah Ascension. Ça fait un an que je vante les mérites d'Ascension.
Excuse-moi.
Non, mais à Copycat, j'ai pas encore joué, effectivement. En fait, j'ai eu le malheur, entre guillemets, d'acheter la version allemande. Donc, la boîte, enfin, la fiche, parce que j'ai la traduction des règles en français, existe bien, mais la fiche setup, quick setup, mais parce qu'elle a un format un peu con, mais il faut que je la récupère parce que je l'ai pas trouvé en anglais ou en français. Donc, du coup, c'est un petit peu dur de se lancer dans le jeu. Je l'ai pas encore franchi.
Et pourtant, c'est très simple. Bah, tiens, prends-la. C'est très simple. Alors c'est vrai que la mise en place, il faut regarder. Enfin, comme il y a cette thématique à la con, chaque endroit sur le plateau a un nom un peu particulier. En fait, quand tu peux l'appeler en deux.
De quoi je te la garde ?
Bah non. Mais...
Non, faut que je la prenne en photo.
Ouais. Donc tous ces endroits ont un nom particulier. En fait, ça alourdit un peu la règle parce qu'on se demande où on doit poser les cartes. Mais en fin de compte, au bout du compte, ça va très très bien. Donc Copycat, un jeu de Friedman Friseux pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes, je pense que ça peut aller assez vite.
Et qui sera pas... Oui, 90 minutes, ça me paraît beaucoup pour 11 tours. Hein,
mais je pense que là, ils ont pris pour 4 joueurs parce que t'as quand même la phase de... t'as quand même une phase d'enchère, une phase de choix, et puis tu peux pas choisir les actions que tu vas faire, toutes les actions que tu vas faire à ton tour, parce que de toute façon, comme c'est un jeu d'opportunité où tu vas poser ton ouvrier, si on t'a déjà pris la place qu'il te fallait, bah t'es un peu eu. Donc, ça marche pas.
Et
Par contre, c'est de l'import et par contre, il n'est pas.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et par contre, il, a priori, il ne va pas être traduit en français, celui-là. Non. Il n'a pas dû faire, il n'a pas dû plaire.
Non,
ou
puis c'est.
Philosophia ou autre, ils sont habitués d'habitude à les traduire.
Ma conclusion de Trance et Copycat, c'est que c'est deux jeux qui. Pardon ?
On a déjà vu ça ailleurs ?
Oui, c'est deux jeux. Alors, Trance surf. Enfin, ces deux jeux surfent sur la vague deck building. Friedman Frisou, il s'est fait plaisir. Il a dit, moi, j'aime bien la pose d'ouvrier, David, quoi, je trouve que c'est cool. J'aime bien ce Rudy Edges. Tiens, on va faire venir les cartes au fur et à mesure.
Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. Il y a un designer out note là dans le BGG où il parle de comment il a fait son jeu. Il explique justement les jeux d'optimisation, les jeux de course, etc. Lui préfère les jeux de course, donc c'en est un ici.
Ouais.
Et il explique un petit peu tous les choix qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a pris tel mécanisme à tel jeu, etc. Je pense que c'est intéressant à relire. On vous remettra peut-être le lien dans le billet de celui-là. Mais
c'est de la cuisine d'assemblage, mais en fin de compte, ça marche bien.
Il s'en est jamais caché.
En fait, quand tu lis le.
Il a des clins d'œil partout. Hein. Je rappelle, sur le plateau, il a fait exprès de faire une erreur d'impression sur la valeur 92 ou 91. Sur la piste de score qui fait le tour. En clin d'œil, il y a une erreur d'édition d'un tirage des aventuriers du rail. Donc en fait, il a fait plein de comme ça, il a récupéré comme ça plein de petites idées des jeux de société.
Ouais, mais après, c'est un truc qui marche bien. Il y a pas de problème. C'est même un jeu très plaisant.
Je trouve que c'est honnête d'avoir appelé son jeu comme ça et de.
Il l'assume complètement parce qu'en fait, la quatrième de couverture du.
En fait, il s'est dit que c'était vendeur.
Pardon.
Il surfe sur le fait que c'est vendeur de Paris d'Agricola.
Mais tout à fait. Il dit de toute façon, tout ce que vous avez à faire, c'est de piquer les idées des autres. Si vous avez des amis, des gens dans votre famille qui ont un talent, servez-vous-en, faites du networking. Et il dit, moi, Friedman Friese, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris le meilleur des jeux qui ont marché, un petit peu de Agricola, un autre petit peu de Dominion, encore un petit peu de Rudy Edges, et j'ai mixé le tout. Et comme vous le verrez, vous n'avez pas à avoir vos propres idées pour faire quelque chose de grandiose.
Il faut quand même la patte du maître, parce que c'est pas tout de prendre des bonnes idées, les bons mécanismes de jeu qui marchent. Il faut après savoir bien les assembler correctement, et ça, il y a que l'expérience qui permet de le faire.
Donc le thème est un peu pourri, le thème est plaqué, mais pour le coup, moi, je revendrai certainement Trance. Si Thomas Détrin m'entend, en fait, je pense qu'il faut que je fasse essayer.
En plus, 150 euros, je trouve, c'est vraiment un prix d'ami que tu lui fais, c'est vraiment très gentil.
Il faut que je fasse essayer Copycat à ma chérie, et puis on verra si elle veut se séparer de Trance.
À mon tour de vous présenter un jeu.
Ouais, vas-y.
Et j'ai choisi Smash Up. Smash Up, c'est un jeu à la base qui est sorti à Essen l'année dernière, qui était, j'en connais. Je fais une dédicace à des déchutes qui ont acheté le jeu parce que ça leur permettait de partir avec le Big Sack AEG, un truc énorme.
Bravo.
Faut pas rater sur tout le salon. Ouais, bah c'est comme ça. Non, je crois qu'il fallait dépenser, je sais plus quelle somme, donc ils avaient pris un peu n'importe quoi comme jeu.
Hein. Oh, n'importe quoi.
Si.
Et tu sais, attends, à chaque fois que je vais chez Trollune à Lyon, je vois des extensions de Smash Up.
Oui.
C'est que ça doit bien marcher.
Eh bien, exactement. Alors. Smash Up, c'est pas un jeu pour moi, en fait. On va voir pourquoi, Alors, très franchement, Smash Up, on va quand même résumer ce que c'est. C'est un jeu d'affrontement. Les joueurs, en fait, ils vont jouer des clans. Donc, dans la boîte de base, il y a 8 clans. Au début de la partie, on prend 2 clans. Et on va les mélanger entre eux et on va jouer. Un clan, c'est 20 cartes, donc on a 40 cartes. On a 5 cartes en main au début de la partie, 4 ou 5 cartes en main. On peut en jouer. Il y a des cartes, c'est des actions, il y en a d'autres, c'est des créatures. On peut jouer une action et une créature par tour.
Okay.
Le but, c'est de prendre possession des bases. Il y a des bases, des zones, des lieux à attaquer. Donc, on va poser, par exemple, quand je joue une créature, je la pose à côté d'une base et elle va participer au combat.
C'est quoi que ce temps comme créature ?
Les créatures, ça dépend. Parce que alors, les clans, j'en ai pas parlé. Les clans, il y a les pirates. Donc, les créatures, ça va être genre le boucanier, il y a le mousse, il y a des choses comme ça. Tu vas pouvoir jouer les autres clans, ça va être les ninjas, les aliens, les dinosaures. Il y a des robots, des sorciers, des nains.
C'est un sacré bordel,
enfin,
non ?
C'est le petit peuple. Ouais, donc vraiment, les peuples sont vraiment très typés. Tu vois, on dirait un peu comme à Small World. Donc les créatures, elles sont vraiment différentes. Leurs noms sont vraiment différents. Donc c'est ça, les créatures, elles ont une force. Donc tu les poses à côté. Et des fois, elles ont un effet en plus quand elles arrivent en jeu. Et on les pose à côté des bases. Quand la somme de toutes les créatures posées pour prendre possession d'une base une base, par exemple, il faut 22 points.
Ah, c'est une bataille.
La somme
en
des
fait.
Créatures fait 22 points. Ouais, c'est la bataille. On regarde le premier joueur, celui qui a fait la plus grosse somme, il marque les points. En fait, il y a, par exemple, le premier joueur, il marque 4 points. Celui qui a le deuxième plus grosse force en présence, il marque, par exemple, 3 points. Et le troisième marque 2 points.
D'accord.
Il arrive des fois qu'il faut être deuxième et pas premier.
Ah bon?
Ouais, d'être deuxième, ça paye mieux. Mais enfin, ce genre de base, t'y vas pas. C'est un peu chaud. Et du coup, voilà, c'est tout. Le jeu, c'est que ça. Puis il y a les actions. À la fin de son tour, on repioche 2 cartes. On peut avoir jusqu'à 10 cartes en main.
Donc en fait, t'as pas tout expliqué ou alors il y a un problème.
Eh ben, comment on va dire?
Les pouvoirs de chaque peuple.
Ouais, alors après, les pouvoirs sont tous. Chaque peuple est vraiment très différent. Il y a les zombies. Les zombies, par exemple, ils vont tout le temps revenir. Quand ils meurent, ils vont dans la défausse. Mais tu peux régulièrement faire revenir les zombies en jeu.
C'est Fendel qui disait justement que c'était un peu. On choisit deux peuples et c'est un peu déséquilibré, non?
Carrément. Donc nous, on les prend au hasard. Oui, les peuples se valent pas tous. Le petit peuple, on n'a pas trouvé sa subtilité. Les pirates, c'est pas mal. Ça permet de louvoyer un petit peu, de changer de base régulièrement, etc. Donc d'être vraiment encore. De rajouter encore plus d'opportunisme à l'opportunisme du jeu. Les ninjas, ils sont durs à jouer parce que. C'est aussi l'opportunisme, mais un petit peu trop difficile. Ils ont vraiment des coups. Ils font des coups dans le dos, quoi. C'est vraiment. Je pense au terme tricky en anglais. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment. Ils vont y aller d'un coup, quoi. Ils font un coup comme ça et hop, ils raflent une base, t'as rien vu venir. Les robots, c'est un petit peu à l'inverse. Il y a plein de petits robots pas très puissants, mais si tu mets tous les uns tous ensemble, ils deviennent très forts.
D'accord.
Les dinosaures, c'est des trucs très ultra puissants.
Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient que les dinosaures, ouais, c'était OP.
Les dinosaures, les trucs qui valent 7 points. C'est une créature qui vaut 7 points quand les autres, en général, ils ont leur plus forte sont 4 ou 5. C'est énorme.
Et globalement, tu penses que l'équilibre y est quand même? Ou alors c'est juste un truc où c'est plutôt. Tu joues pour le défouloir et.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le genre de jeu. Il en existe des tas où c'est un petit filler. Tu joues, tu prends des pops, c'est juste pour passer le temps. Tu joues à ça entre potes, etc. Je m'attendais à un truc qui soit pas aussi bien fait que ça.
Ah.
Parce que très franchement, ce genre de jeu. C'est vraiment pas, c'est pas mon type de jeu parce que souvent en plus c'est des jeux qui sont vraiment déséquilibrés, qui sont mal foutus, une règle simple. Alors que là, j'ai quand même été agréablement surpris parce qu'il y a quand même, on fait quand même vraiment des choix. D'accord? Tous les clans se valent pas. Il y a quand même des clans qui sont vraiment plus forts que d'autres et il y en a qui marchent très fortement en combo. Ça c'est pour moi c'est un défaut du jeu, mais ça peut sauter avec les extensions, etc.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème c'est que en général, les boîtes de base sont équilibrées et les extensions ont tendance à.
Bah là, le petit peuple, il nous a semblé un petit peu faible face à d'autres, quoi.
Et mais peut-être qu'avec d'autres extensions, ça va rétablir un peu l'équilibre, ouais. Et que tu vas avoir des choses un peu plus.
Les peuples se valent pas tous, mais de toute façon, c'est pas forcément le but du jeu. Le but du jeu, c'est de passer un bon moment, etc. Et le mécanisme, la règle est intelligente. Parce que de toute façon, tu repiocheras que 2 cartes par tour, etc. Pour moi, ça, c'est bien fait. Les cartes, les pouvoirs des cartes, la plupart sont quand même cohérents. Avec le jeu, d'accord. Alors après, bon, c'est pas forcément aussi puissant que le peuple d'à côté, mais ça reste cohérent par rapport au thème, etc. Bon. Les illustrations sont très sympas. Hein. On a
tu
pas
vas
les
perdre.
Illustrations.
Ça, c'est sûr. Tu as le petit peuple, tu vas perdre. Mais tu vas quand même passer un bon moment.
On a fait une partie. Un joueur, il a pas eu de bol. Il avait 2 créatures en main et j'ai joué une action qui faisait, il défaussait 2 créatures et il a pris du retard qu'il a jamais rattrapé sur la partie. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Mais c'est pas grave, c'est pas le genre de jeu super stratégique. C'est un genre de jeu, c'est le jeu où il faut être très opportuniste. De toute façon, faut faire avec les cartes que t'as en main et puis la situation autour de la table. Puis il y a des négociations avec les autres joueurs. Tu dis attends, viens pas là, va là-bas ou etc. Donc il y a ce genre d'aspect-là à prendre en compte. Ce qui fait que ça peut tout à fait marcher. Ça dépend du public, quoi.
D'accord. Alors, un public familial, on peut faire jouer les enfants avec ça? Est-ce que
non, pour moi, il y a quand même beaucoup de. Enfin, les peuples les plus intéressants à jouer, il y a des combos, etc. à faire, donc je pense que c'est quand même.
Donc ils pourront jouer, mais ils n'ont peut-être pas la vision globale du.
Ouais,
truc.
Il est dit à partir de 12 ans, je pense que c'est plutôt ça.
Très bien.
Enfin, ouais, je sais pas, peut-être à 10 ans. Les illustrations sont très sympas. Les martiens ressemblent à Mars Attacks, je sais pas comment ils ont fait au niveau licence. Enfin, les peuples sont vraiment très clairement identifiés avec les illustrations, ça c'est très très bien. Et puis voilà, moi après ce que je reproche c'est que c'est le genre de jeu quand même, c'est plutôt petit filler, enfin tu vois, c'est le genre de jeu tu joueras en 20 minutes, c'est marqué 3 quarts d'heure sur la boîte, alors je pense qu'on peut tomber à une demi-heure quand même.
Mais vous, combien de temps vous jouez?
C'est plutôt entre 30 et 40 minutes je pense, c'est un petit peu long quand même le temps d'arriver au 22 d'une base, comme il y a 5 bases sur le plateau, enfin il y a un nombre de joueurs plus une base, quand tu vois 4 il y a quand même 5 bases, ça fait quand même beaucoup.
D'accord.
Donc les peuples déséquilibrés, ce qui fait que dans la règle ils disent choisissez chacun un peuple au choix, on fait plutôt, on met les peuples à l'envers et puis on prend au hasard. Autre solution, on fait un draft. Alors, c'est-à-dire que un joueur choisit un peuple, après on tourne et après on revient mais on fait le tour à l'envers de la table pour rééquilibrer. C'est-à-dire que celui qui a choisi le premier peuple, après il prendra le dernier qui reste, donc il aura un petit peu moins de choix. Voilà, ça m'a donc comment on va dire, c'est bien fait. globalement, c'est bien fait. C'est pas pour moi, mais ça, tant pis. En fait, moi, ça m'a fait penser à...
On n'est pas des joueurs universels. Hein.
Ah non, exactement, exactement. Mais j'ai quand même passé un bon moment, hein. Faut reconnaître. Mais voilà, je pense qu'après trois parties, on va dire, bon, bah, moi, c'est bon, j'ai vu les peuples. Je sais lesquels il faut que je prenne, je sais lesquels je prendrai pas, quoi. Ça, c'est dommage.
D'où les extensions.
D'où les extensions. Et, mais je pense, enfin, c'est vraiment le genre de jeu qui peut marcher, parce que ça peut plaire à plein de monde. Je pense notamment, justement, à des, plus des joueurs qui cherchent le thème, qui cherchent un peu à s'éclater, juste à se mettre dessus, quoi. C'est vrai que c'est le jeu de la bataille. Moi, ça m'a fait penser à un jeu qui a rien à voir, mais que j'ai beaucoup joué en son temps, un petit peu sous forme d'un filler, c'était Rencontre Cosmique.
Quoi?
Ouais.
Mais oui, à Rencontre Cosmique sous forme de filler?
Ah, une partie, c'est rapide. On joue à 3-4, ça dépend. Ouais, il y a des parties qui pouvaient.
Ah, il a 4 bases. Bah non, on va plutôt l'attaquer maintenant. Ah oui, maintenant c'est lui qui a 4 bases. Oui, bah on va l'attaquer.
C'est ça, avec des pouvoirs qui étaient bien plus cheatés que d'autres.
Et, oui,
on jouait, et en plus, on jouait coup, chacun oui, avec deux, voire trois pouvoirs. Enfin bref. Mais,
Et moi, ce que j'aime pas, c'est ce genre de jeu où en fait, c'est
toujours d'un coup sali contre.
Non, c'est quand tout le monde est conscient de ce qui se passe et qu'en fin de compte, il y a un équilibre qui se fait jusqu'à ce qu'il y en ait un qui baisse sa garde et là, ça bascule en fait. Et c'est ça que j'aimais pas le jeu ouais, d'AG.
Le côté de Rencontre Cosmique, c'est son côté délirant de tous les pouvoirs loufoques
oui,
qu'il peut y avoir. C'est ça qui était, c'était vraiment fun, ça ajoutait du fun.
Smash
Up, il y a quand même pas très. C'est, par contre, t'as pas un vrai fun. Si tu vas faire des coups,
quoi
en fait, tu vas faire des coups, en fait, tu vas prendre une base alors que personne s'y attendait parce que tu joues le petit truc en plus, mais il y a pas toujours ça. Donc voilà, il y a quand même des choix. Par contre, au niveau choix, il y a quand même des choix à faire hein, parce que quand t'as une main de 7 cartes. Et tu peux jouer que 2 cartes dans ton tour, tu vas quand même réfléchir. Après, il y a de la combo où des fois tu vas pouvoir jouer plus de cartes.
Oh, d'accord.
Donc, il va falloir quand même réfléchir. C'est là-dessus que je dis que le jeu, il est quand même intelligent, riche. Et c'est là-dessus qui m'a surpris. Parce que
d'accord.
Je m'attendais vraiment à un truc genre du Steve Jackson, tu vois, un truc basique, quoi.
Et alors, la boîte, c'est une grosse boîte pleine de vide.
Oui. C'est une boîte format carré type King of Tokyo.
Donc,
je pense.
Qui appelle les extensions.
Ouais, il y a un thermoformage. Et en fait, quand tu mets toutes les cartes de la boîte de base, ça prend la moitié de la boîte. Enfin, il y a donc encore de la place dans le thermoformage pour ajouter une dizaine de.
C'est comme. C'est c'est comme ma valisette X-Wing. Elle appelle les miniatures.
Oui, bah écoute, mais tant mieux. Enfin, d'un certain côté, moi je préfère que la boîte de base permette d'héberger directement les extensions.
Oui.
Plutôt que des fois de te retrouver avec gérer plusieurs boîtes.
Ouais, mais en général, c'est.
La carte Dominion, j'ai plein de boîtes qui sont pile parce que.
Ouais, mais tu vas avoir
le thermoformage.
C'est-à-dire que tu vas avoir d'abord une boîte de base qui va être plus petite. Et après, l'extension, elle va permettre d'accueillir la boîte de base.
Ça, c'est quoi, Warriors ?
Bah oui. Bah, c'était bien aussi. Et puis la boîte, la première... Bon, après, on parle chiffon, mais j'aime bien aussi le cube de Warriors, c'était pas mal. Ça prend de la place, et puis, mais bon, en fait,
tu
le reconvertis à autre chose.
Smash Up, ça va, c'est un format plus traditionnel, format carré. Donc, Smash Up, c'est un jeu de Paul Peterson, paru tout récemment chez Yellow en français, pour 2 à 4 jours à partir de 12 ans. Durée approximative, on va dire plutôt 30 minutes que 45, c'est les parties découvertes. C'est vendu pour environ 25€, on le trouve notamment chez Ludic Bazar.
Oui, alors quand je dis la boîte est pleine de vide, c'est, voilà, c'est un jeu de cartes à 25€ et c'est un vrai jeu de cartes complet à 25€, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est un peu désappointé quand on ouvre la boîte et qu'on se dit oulala, mais.
Et vous rangerez vos extensions.
Du thermoformage.
Ouais, mais comme ça, il y a la place pour les extensions, si vous aimez le jeu.
Donc avec vos précommandes de X-Wing, vous pouvez... Ah non, on vous a dit de passer 2 commandes différentes chez Ludic Bazar.
C'est mieux. Alors Smash Up chez Ludic Bazar, il est à 25€10. Ajoutez vos 13% de réduction si vous êtes client fidèle, puisque vous êtes fidèle auditeur de Proxy Jeux. Voilà, ça réduit encore.
Et je remercie Guillo pour nous avoir. Ils nous ont fait passer plein de jeux.
On parlera peut-être pas de tous. Hein,
non, on va.
Je tiens à préciser tout de suite.
Non, mais on a eu des bonnes surprises, donc on en parle. La première bonne surprise, c'était Smash Up. Et puis, la deuxième bonne surprise, en fait, c'est Naufragé. Donc, Naufragé, on vous en a parlé dans la partie A, dans la face A de ce numéro 44. Parce qu'on vous a parlé de c'est pas Inoue.
Robinson Crusoe.
On vous a parlé de Robinson Crusoe. L'idée c'est que vous êtes naufragé sur une île. Vous devez monter tout en haut de la montagne pour faire du feu et puis signaler au navire qui passerait par là que vous êtes naufragé et dans un temps assez rapide parce que sinon vous allez mourir forcément. Donc ça, c'est le thème. C'est un jeu coopératif, mais que vous pouvez aussi jouer en semi-coopératif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous avez deux modes de jeu. Le premier mode de jeu, c'est tout le monde gagne. Le deuxième mode de jeu, c'est tout le monde gagne, mais il y en a un qui gagne quand même un peu plus que les autres et qui va gagner tout seul. C'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie. Ouh. Les points de victoire, on les a avec des équipements et avec des parchemins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois façons d'avoir des points de victoire. D'abord, en récupérant des équipements qui, en général, servent à l'aventure. Et le deuxième point, la deuxième façon de récupérer des points de victoire, en fait, elle est double. D'abord, il y a une action qu'on peut faire pendant le tour, c'est récupérer des points de victoire.
C'est un peu abstrait, non ?
Non, c'est non, non, non. C'est
un joueur quand même quelque chose qui reste collé avec le thème.
Ah oui, très.
D'accord.
Ou en faisant des explorations, et quand tu fais des explorations, parfois, on va dire, vous gagnez des points de victoire. Bon. Alors, t'es un petit peu plus, t'as un peu d'expérience, t'as fait des trucs, donc c'est bien de partir en exploration parce que ça te permet de gagner des points de victoire. Tiens, si tu veux voir les cartes, ouais. Elles sont là.
C'est du matos, hein.
Il y a beaucoup de matos.
Il y a du travail de traduction, là.
Il y a 1, 2, 3, 4 plateaux, qu'on pourrait dire des plateaux individuels. 2 qui servent de pistes d'action. Les actions qu'on peut faire, c'est, il faut que je les mette dans l'ordre, aller chercher de la nourriture, aller chercher du bois, aller chercher des points de victoire. Alors, j'en reparle, les points de victoire...
C'est plus des moyens de survie, des choses comme ça.
Alors, chaque personnage va pouvoir les utiliser pour... Par exemple, soigner ou relancer des dés ou faire ceci, cela. Ou rentrer d'exploration, par exemple. Des fois, on est perdu, donc on troque des points de victoire contre la possibilité de lancer des dés pour revenir au campement. On peut aussi faire du feu, aller chercher des débris du navire qui s'est échoué. Et ça, c'est important, il faut de toute façon y aller parce qu'on va trouver des armes, on va trouver des médicaments.
Qui marche toujours, évidemment.
Pardon ? Oui.
Des armes qui marchent toujours, l'eau ne les a pas.
Mais non, parce qu'elles sont dans des caisses.
Ah, évidemment. Étanches à l'époque.
N'est-ce pas ? Mais tu n'as aucune imagination. Et puis, on va pouvoir se créer des abris. On va pouvoir aussi faire du feu, un brasier. Et puis écrire help sur la plage. Je pense qu'au secours, c'était trop long.
Ouais. Puis c'est plus international, puisque tu m'as dit qu'il va sortir dans 18 ans.
Oui,
enfin, c'est... il va sortir partout.
Et mais puis, ça, c'est une version...
Parce qu'il y a déjà les avions, en fait. On a une époque où il y a déjà les avions.
J'ai soulevé le point, mais on va dire que... c'est... Voilà.
D'accord. C'est au cas où les aliens passent.
Alors... en fait, quand... donc, il y a un autre... Il y a deux autres... donc, ça, c'est les deux premiers... les deux premiers plateaux individuels. Ça permet de faire des actions. Chacun va faire... des actions qui vont contribuer à la survie du groupe, qui vont demander ça, des points de fatigue. Alors, en général, au départ, on a 6 points de fatigue. Quand on doit dépenser des points de fatigue supplémentaires, vont se transformer en blessures, et les blessures vont se transformer en séquelles. C'est des blessures qu'on peut pas,
et puis la gangrène.
On peut pas soigner. On a aussi un plateau sur lequel on va retrouver l'emplacement pour 9 cartes, ce qui va te laisser présager plein de possibilités.
Mais ce qui m'inquiète, là où j'ai un doute, c'est un plateau pour poser juste des cartes dessus.
Quel non, intérêt? Mais tu pourrais avoir, enfin, tu pourrais les poser à côté, mais non, en fait, quand t'as tous, enfin, c'est comme si t'avais un grand plateau, mais sur 4 plateaux individuels, et en fin de compte, quand tu les mets côte à côte, t'as une sorte de grand plateau, ils auraient pu faire un truc.
Quand c'est fabriqué en Chine, et comme ils font mal les collages,
bravo,
du
bravo.
Coup, ils ont préféré des coupes. Ça permet de garder le jeu à un prix abordable.
Donc, sur un des plateaux, on va avoir. Ça permet de faire évoluer un peu les choses, on va avoir la pêche, recevoir des poissons. Donc, ça, c'est des actions que tu vas avoir au début. Tu vas en avoir 4, je crois, ou 5. Et tu vas pouvoir déjà. Aller chercher des sortes de larves, parce que c'est comme Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est naufragé. Enfin, naufragé, c'est Koh-Lanta.
Avec le médecin en plus.
Une carte s'appelle Effort surhumain, recevez 3 énergies supplémentaires pour pouvoir après faire des choses, mais tu reçois une blessure aussi. Tu as la préparation de l'exploration, parce que l'exploration nécessite une énergie, mais là, tu ne payes pas ton énergie. En plus, tu vas recevoir des points de victoire. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc, tu vas avoir déjà, dès le départ, tu vas pouvoir avoir des débuts de parties ou des parties qui seront diversifiées.
Ouais. Par contre, là, tu nous as déjà parlé de points d'énergie, de fatigue. Du coup, on a l'impression que c'est un jeu où il y a quand même pas mal d'éléments à gérer qui sont un peu...
Non, parce que... Ça va. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque action, tu as des points d'énergie. Ton personnage, il a 6 points d'énergie. Mmh. Après, c'est assez simple. En fait, c'est juste quand tu fais un truc, c'est un coup, quoi. Tu payes ce que tu fais.
D'accord.
C'est juste. Et après, tu peux, tu te transcris assez facilement, tu es sur une île. Quand tu vas couper du bois, forcément, ça te prend de l'énergie, voilà. Tu peux te blesser, etc. Et puis, le quatrième plateau, c'est un plateau où tu vas avoir une petite piste, comme ça, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 étapes sur la plage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 étapes dans la forêt, et après, 7 étapes jusqu'au haut de la colline. Et l'idée, c'est que donc il y a une partie de l'équipe qui va faire en sorte d'avoir du bois, d'avoir à manger, de construire un abri, d'écrire help sur la plage. Et puis il y a l'autre partie de l'équipe qui va dire mais moi je vais en exploration. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce qui est le plus drôle en fait, c'est que tu vas avoir, il va t'arriver plein de choses en fait. Donc d'abord t'as des cartes qui vont se produire sur la plage. Alors sur la plage t'as des traces d'animaux, t'as un singe, t'as une épave de galion. Et puis, ensuite, tu vas arriver à l'intérieur des terres. Et à l'intérieur des terres, eh ben, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire, il va y avoir un chien errant.
Oh ben ça va, ça.
Tu vas avoir des... Je me sens faible. Donc, je suis fatigué. Je ne veux plus avancer. Est-ce que je perds d'énergie ou beaucoup d'énergie? Et puis après, tu as des choses un peu plus compliquées. Tu as des piranhas, par exemple. Ça c'est hard quoi. Quand t'arrives au sommet de, l'île, c'est assez compliqué.
Il faut avoir survécu déjà tout ce qu'il y avait avant quoi.
Ouais, mais c'est facile. La plage, c'est la plage quoi.
Ouais, la plage, mais je veux dire pour arriver au sommet.
Après, quand t'es dans le vert, donc la forêt, ça va encore. Quand t'arrives au sommet, et il faut arriver au sommet pour gagner la partie.
Ouais, parce que de toute façon, t'as pas le choix.
Mais non. Et c'est ça, c'est le dosage en fait entre les deux qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut quand même y aller. Ça coûte au groupe d'y aller, ça rapporte à certains parce que t'as certaines cartes. En fait, t'as des petits symboles sur les cartes qui sont. T'as trois symboles différents. Les pas qui veulent dire j'avance dans mon exploration. Des symboles de cartes qui vont augmenter la difficulté du retour à la base. Et puis tu vas avoir sur certaines cartes des parchemins qui vont dire je gagne de l'expérience. Sauf que c'est un des rares trucs que tu vas faire dans ce jeu qui vont te donner de l'expérience sans, enfin des points de victoire, pardon, sans vraiment que tu les aies demandés. Et donc, alors, autre chose, dernière chose sur l'avance de l'aventure, c'est qu'il y a des arcs narratifs. Donc, je crois qu'il y a une vingtaine d'histoires possibles. Et en fait, l'arc narratif, c'est que tu vas, trouver un arbre en forme de tête humaine. Bon. Et là, quand tu vois ça, tu dis, tiens, un arbre en forme de tête humaine. Et on te dit, tu prends la carte numéro tant, il y a une centaine de cartes, que tu vas rajouter au paquet de base.
Ah, c'est le DBG.
Un paquet sur le... Ouais, DBG. Un paquet pour la plage, un paquet pour la forêt, un paquet pour la montagne. Tu vas le rajouter.
Ouais.
Et tu dis, ah bah oui, mais au fait, l'arbre en tête d'humain que vous avez vu, machin, voilà. Et t'as une histoire qui va se dérouler, et tu vas avoir des conséquences, ouais, une extension à ça. Et ça marche pas mal.
Ça a l'air assez immersif, du coup.
Ça, c'est immersif.
Tous ces différents aspects, là. Ça fait gommer finalement l'aspect un peu technique et
ouais,
point de victoire, non?
Surtout que tu vas avoir. T'as un certain nombre de tours, qui. Je sais plus combien, mais tu vas avoir. Tous les tours, tu vas piocher une carte, tu vas avoir des événements.
La météo.
Événements, tu vas avoir une météo aussi.
Il fait beau.
Ouais.
Il fait beau.
Non, en fait, ça peut aller de la pluie qui vont t'empêcher de pêcher du poisson jusqu'au soleil qui vont te donner une insolation et te prendre ton énergie. Et sur chaque carte.
On n'est jamais content de la météo, quoi.
Tu vas avoir en fait des petits symboles. Ça peut être le bûcher, ça peut être help, ça peut être le journal de bord du capitaine. Journal de bord du capitaine. Ça peut être la longue vue, ça peut être le miroir, enfin des choses comme ça. Des objets que tu vas trouver en allant sur la plage récupérer des débris du navire et qui seront obligatoires. C'est-à-dire quand tu vas arriver en haut. Il faudra que tu puisses résoudre une des cartes. Tu diras, on a fait le bûcher, on a écrit help sur la plage, on a le journal de bord du capitaine, et en plus on a le miroir, donc on est sauvé. Si tu ne l'as pas fait, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que tu obliges les gens à effectuer ces actions-là avant d'aller, enfin, en même temps que d'aller, explorer. Et c'est normal, c'est thématiquement correct, parce que si tu n'as pas fait un bûcher, tu seras en haut de ta colline et tu vas voir passer les navires, mais les navires ne te verront pas. Voilà. Il y a une gestion de la bouffe, il y a une gestion du feu, parce que si t'as pas de feu, ben tu perds d'énergie. Si t'as de, si t'as du, un abri, tu peux. C'est, alors, ça c'est comme Koh Lanta, tu, enfin c'est peu de le dire. Alors d'abord parce qu'il y a une carte qui dit je mange, non. En fait, tu fais bien de le dire parce que c'est tout à fait ça, quoi. C'est, ça, ça aurait pu être Koh Lanta, The Board Game. T'as une image, c'est alors c'est insecte comestible ou ça se mange. Nous, on avait ça se mange, et en fait, c'est une larve, une grosse larve, un gros ver, tu sais, qui mange quand
tu sais, ma grand-mère, elle disait 15 jours sous une benne.
Oui,
tu mangerais n'importe quoi, ben voilà, là, si t'as vraiment faim,
tu manges n'importe quoi. Et il faut savoir que on a l'esprit Koh Lanta quand on commence à avancer dans le jeu, c'est-à-dire que la première partie de la partie, on est tous copains, on s'aime bien, on se tape plein le dos, c'est cool. Et puis, vient à s'échouer. Une bouteille de rhum, 5 points de victoire. 5 points de victoire et la possibilité de, d'avoir de guérir tout son. De se remettre de toute son énergie.
Oui, c'est connu, l'alcool, ça aide à se remettre.
Non, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les
éléments équipements que tu vas avoir. Qui vont venir casser la bonne ambiance.
Non, ouais, c'est ça. Mais c'est les équipements que tu vas avoir, ils vont pouvoir être défaussés pour avoir un effet positif.
Mais tu perds les points de victoire.
Mais tu perds les points de victoire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire non, non, en fait, je pourrais te donner ça, toi t'es en exploration, ça va te permettre de revenir ou d'aller loin, mais non, je te le donnerai pas. Et là, ça commence à être la merde. Parce que là, tu le regardes, tu fais
c'est
quoi
c'est si long.
Ah, mais alors, si tu me le donnes pas, faut le boire, hein, parce que ça fait 5 points de victoire et il montre que t'es. Et là, tu commences à. Ça commence à partir en couille. Et c'est super thématique, c'est super bien. Mais il y a un moment donné où c'est très thématique dans la négociation, la lutte de pouvoir, les clans, toute la pression que tu fais sur les gens. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là en semi-coop si tu as des doutes sur les gens qui sont autour de ta table.
Choisis tes joueurs.
C'est ça.
Mais ça a forcément une incidence sur la durée du jeu, tout ça.
Oui, tout à fait. Sur la boîte, c'est marqué
90 minutes.
90 minutes. C'est un mensonge.
En fait, c'est beaucoup moins.
En fait, c'est beaucoup plus.
Ah bon ?
C'est beaucoup plus.
Bah parce que t'as joué avec des joueurs bavards.
Non, c'est parce que justement, quand tu passes ton temps à dire « Ouais, mais alors là, moi, je vais faire ça. Mais je vais faire ça parce que je vais avoir besoin de ton rhum. Parce que, en fait, file-moi la bouteille. Et puis moi, j'irai en exploration. Je vais me soigner. Comme ça, je pourrai rentrer tout ça. » Forcément, ça prend du temps. C'est pas, c'est vraiment pas négatif. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un point négatif. C'est juste que, objectivement, bah, si tu veux te la jouer un peu role-playing, bah, forcément, ça va prendre du temps.
Ouais, forcément. Non, mais j'ai eu les échos pareil. On m'a dit que ça pouvait durer jusqu'à 3 heures.
Et notre partie a duré 3 heures et demie.
Ah bah voilà.
Je crois que c'est explication des règles comprise.
Ouais, mais explication des règles, quoi. C'est une petite demi-heure en max.
Oui, c'est une demi-heure. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà. Un petit mot, un dernier mot sur la qualité de tout ce matériel. J'étais choqué quand j'ai ouvert la boîte parce que j'ai vu des meeples en plastique.
T'en parlais dans l'épisode 1, fais voir, je sais pas. Enfin, ça, je t'ai parlé des meeples en plastique. C'est une coédition.
Tiens, ça c'est des pilons de poulet KFC en plastique.
Bon, c'est du KFC, donc c'est normal.
Et ça, c'est les meeples en plastique. Mais on est juste tellement pas habitué à ça. Que ça m'a fait hérisser le poil.
Ouais, pas habitué, mais... Tu sais, je regarde, je prends Survive. Alors, The Island, je crois qu'ils ont fait avec les pions en plastique aussi, d'ailleurs. Je sais même pas. La version d'Asmodée, mais dans The Island, au départ, les pions, ils étaient en bois. Et finalement, j'étais tout content de trouver leurs pions en plastique parce qu'ils sont tellement bien faits que tu t'aperçois pas que c'est du plastique, c'est sans qualité.
C'est ça.
Mais c'est vrai que des meeples forme Carcassonne, ça fait bizarre de les voir en plastique, mais...
Je vous ai pas parlé des particularités de chaque personnage. Parce qu'en fin de compte...
Ah, il y a des particularités.
Ouais, vous pouvez ajouter un à n'importe quel jet de dés en défaussant un parchemin, donc des points de victoire au hasard. Alors, ça, c'est un truc. En fait, tu chopes des parchemins qui valent de 2 à 4 points de victoire et tu les défausses au hasard. Et ce qui fait que ça rajoute aussi pas mal de longueur au jeu parce que tu es toujours en train de dire « Attends, toi, tu as tant de points de victoire devant toi en matériel, tu as tant de parchemins... » Après, tu peux faire aussi des échanges. C'est-à-dire que on a commencé à faire ça et je pense que à rejouer, il y a une bonne rejouabilité d'abord pour les aventures que tu peux vivre. Ensuite, parce qu'à un moment donné, D'abord parce qu'on a perdu.
Faut pas te fâcher. Ah ouais, non, mais ça, forcément, une première partie, je pense que tu gagnes pas. Puis faut pas te fâcher avec les joueurs, par contre.
Bah là, tu peux facilement.
Pour la rejouabilité, pour la rejouabilité, c'est dommage.
Mais peut-être que la première, tu peux la faire. Enfin, tu peux aussi les. Je pense que tu prends aussi pas mal de plaisir à la jouer en coop. Je pense que c'est faisable parce que là, on était pas loin du haut. Mais on a passé quand même pas mal de temps à se faire des parchemins. Enfin, moi, j'ai fait le crevard, je voulais gagner. Et c'est un petit peu le mauvais symptôme de ce jeu, c'est que s'il y en a un qui veut vraiment gagner, si les autres le bloquent, on a perdu. Et s'il y en a un qui dit...
C'est jouer un peu comme ça.
Voilà. Et s'il y en a un qui dit, mais machin, là, il a 18 parchemins, il veut pas les lâcher, ok, ben moi, je vais faire des parchemins aussi. Et si tu fais ça, ben, t'as perdu.
C'est pas amené sur en semi-cop.
Donc... il y a la partie aventure. C'est-à-dire qu'il faut être clair que le but du jeu, c'est vraiment de vivre l'aventure et d'aller au bout et d'essayer de gagner. Et voilà. Mais c'est une réussite. Pour moi, c'est une vraie réussite. C'est une vraie bonne surprise. C'est un vrai goût de Robinson Crusoe, le jeu de Portal. Au niveau graphisme, je suis plutôt en faveur de Portal. Je préfère, mais c'est pas moche. C'est un certain...
Non, ça m'a pas choqué, moi. Il y a quand même du boulot parce que chaque carte est illustrée, il y a un paquet de cartes.
Oui. Ah bah il y en a peut-être 200. Ouais,
ouais, donc c'est pas mal.
Il y en a peut-être 200, il y a des meeples, il y a des cubes.
Au niveau matériel par rapport
a...
au prix, je suis. On a parlé de Smash Up un peu plus tôt. Je veux dire, Smash Up à 25€ à côté, ça fait presque cher par rapport à tout ce qu'il y a dans Naufragé pour quelques euros de plus, quoi.
Ouais, c'est 40€ quand même. Mais non, ça les vaut. Enfin, ça les vaut bien. Et en plus, je pense que c'est une vraie bonne surprise parce que. À la fois il y a ce côté si vous voulez jouer au coopératif, ça marche, vous allez vivre une super aventure, vous en vivrez même peut-être deux ou trois. Si vous voulez jouer en comme des raclures Koh-Lanta, vous pouvez aussi. Mais il faut vraiment que vous vous entouriez de gens qui veulent vraiment gagner parce que sinon ça marche pas. Naufragé, c'est un jeu de Alberto Corral illustré par Siskou Bellido. Pour 1 à 4 joueurs, donc il devait avoir une version solo à partir de 12 ans, durée 90 minutes à beaucoup plus, mais on ne voit pas le temps passer. Pour le contenu, 4 plateaux, 2 dés, 240 cartes, 9 pions en action, 48 cubes en bois, menteur, 32 jetons, 108 tuiles et un livret de règles, donc une boîte carrée format Dominion et remplie à ras bord, équivaut à peu près 40€.
33,90 chez Ludic Bazar.
33,90
chez Ludic Bazar, oui. Oui, monsieur.
Rapport qualité-prix, c'est juste
oui,
parfait.
C'est pour ça, je pense.
C'est juste parfait. Et beaucoup, beaucoup de plaisir, donc faut pas... N'hésitez pas. Voilà. Dans la partie écran, je voulais vous parler de Eclipse, puisque Eclipse est le gros morceau qui est... paru ces derniers temps.
Ouais, il y a eu une petite disette là ces derniers temps et puis d'un coup là, Agricola pour le prochain épisode.
Ouais.
Alors vas-y, Eclipse.
Alors Eclipse c'est un jeu de Tuco Takokalio qui est sorti chez Istari et qui est une coédition avec plein de gens, Lota Pellit notamment, qui est sorti en 2011. C'est un jeu de plateau un 4X, enfin plutôt un 3X puisque la partie de négociation est réduite au maximum. 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus. Compter 120 minutes et 60€. C'est une grosse boîte bien remplie avec plein de matos. Et depuis la semaine dernière, où il y a 10 jours, sur nos tablettes iOS.
Oui, très ouais. Bien.
non, je regarde. Le jeu est un jeu qui est foisonneux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à gérer, un système qui est pas facile à aborder puisqu'il y a une partie qui est une partie exploration, une partie de gestion de sa galaxie, c'est-à-dire qu'on va avoir trois ressources, de l'argent, des planètes qui vont nous permettre de faire des recherches scientifiques et puis des planètes qui vont nous permettre d'avoir du matériel. Et au fur et à mesure de nos explorations, on va avoir un certain revenu dans ces trois catégories-là. Et l'idée que on peut pas tout faire parce que ça va coûter de l'argent d'entretenir sa galaxie, ça va de fait coûter de l'argent. Et il va falloir faire des choix. Et il va falloir laisser parfois tomber un certain côté de sa galaxie certaines zones de sa galaxie où il n'y a rien, par exemple, où on a... Il y a des zones où on trouve des choses un peu... c'est surprise, vous voyez, une technologie rare. Vous, voilà, ça aussi, c'est thématique. Ah peut-être oui. Une épave ou...
ouais,
je sais
c'est
pas.
Comme ça.
Et
tu regardes pas assez les séries science-fiction, toi.
Non. Et, ah, et l'idée, c'est qu'à chaque tour, on va avoir des choix à faire entre faire des recherches scientifiques. Donc, on va avoir une interface qui est... global, c'est-à-dire qu'on va avoir la galaxie qu'on va pouvoir pincher, on va pouvoir faire des zooms sur un certain coin de sa carte. Et puis sur les côtés, on va avoir la piste de recherche scientifique, la piste de technologie, de ces technologies à soi qu'on va pouvoir ouvrir ou fermer. La réputation, bon ça c'est pas très important, c'est la partie négociation réduite à sa partie congrue qu'on va pouvoir ouvrir aussi. Et puis, de l'autre côté, on va avoir sa flotte avec les vaisseaux, les différents types de vaisseaux et les équipements qu'on va pouvoir...
Avec leur design particulier.
Donc, en fin de compte, on peut tout ouvrir en même temps. Et sur son iPad, on va avoir, en fin de compte, en superposition de la carte centrale, les recherches scientifiques. Voilà, les recherches scientifiques. Même, ce n'est pas que son plateau individuel, oui, c'est toutes les recherches qui sont en cours. Puisqu'au fur et à mesure de la partie, on va rajouter des recherches. Les recherches que nous, on a fait et les équipements qu'on a en fait mis en œuvre sur ses propres vaisseaux. Et puis, tout en bas, on va avoir le choix des actions qui sont l'exploration, changer l'influence, faire des recherches scientifiques, upgrader les vaisseaux, construire des vaisseaux et les bouger.
Attaquer.
En plus de ça, on va avoir en haut le coût en fait, de ces actions. Qui sont assez exponentielles. Plus on en fait et plus elles vont être chères au fur et à mesure. Donc la première va coûter 0, après 1, après 2, après 3, après etc. Et ça va vite en fin de compte et on est vite limité. Et c'est là que tout l'intérêt du jeu, c'est de dire on va optimiser et on va. On peut pas, comme dans un jeu vidéo, dire on va lancer. C'est pas un stratégie temps réel, c'est-à-dire on va pas dire je lance la production et puis j'envoie un éclaireur et puis je fais des recherches. Non, il faut faire des choix et il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Le menu est assez simple. On a quand on commence à jouer une possibilité de faire un tutoriel.
Recommandé, non ?
Recommandé si on connaît pas le jeu.
Ouais,
qui je pense même que va nous guider pas à pas et qui va nous permettre de
Il te donne des conseils de jeu en même temps ou pas ?
Ouais.
Je sais pas, c'est plutôt la spécialité de Codito, ça. Dans Puerto Rico, dans Euphrate. Et j'aime bien ce qu'il distille dans le tutoriel des conseils de jeu. Ça, c'est vraiment,
ouais,
c'est vraiment sympa.
C'est très verbeux, en fait. Donc, ils vont dire...
Ah oui.
Ouais, c'est très, très
verbeux. Ouh là là, on dirait du chatil.
Mais non, parce que là, c'est pas drôle. C'est très verbeux, pas drôle. Donc on va dire pas à pas, on va dire ouais, maintenant, dans un premier temps, vous avez fait une exploration. Donc voilà, tu dis, vous appuyez sur telle touche, on t'appuie.
Ouais.
Et après, dis, là, vous avez l'exploration, ça peut être l'exploration extérieure ou intérieure.
Combien de temps le tuto ?
Très long.
Ouais, c'est ma crainte.
Très long, et il y a juste un problème, c'est qu'en fait, quand tu le coupes en plein milieu, c'est vrai, quand tu le coupes vraiment, et il faut que tu recommences depuis le début.
Voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté encore le jeu, parce que je me suis dit, oulala, en ce moment, j'aurais pas le temps de me lancer avec le tuto. Enfin, ouais. Voilà. Je connais le jeu, mais effectivement.
Et puis pour arriver à avoir tous les cas de figure, il faut vraiment que tu prennes du temps parce que il faut comprendre aussi le système où t'as ces trois ressources là où t'as comment tu fais des points de victoire et même sans ça c'est compliqué. Moi je peux toujours retourner au début. Tu peux aller dans le manuel. Donc le manuel hein, c'est les règles à plat.
Par contre, c'est tout en anglais. Hein.
Oui, tout à fait.
Petite précision quand même. Big Daddy, forcément, ils ont fait en anglais.
Tout à fait, c'est Big Daddy et puis ils nous épargnent rien. Et puis surtout, de toute façon, il y a tellement de règles, tellement de textes que ça sera jamais en français. C'est pas possible.
Non, non, mais ils les font pas, ils traduisent pas.
T'as les 8, 16.
Oui, parce que oui, quand tu joues.
1, 2, 3.
Parce qu'il y a une extension.
12, les 12
espèces.
Races qui sont passées en revue.
Parce que dans le jeu plateau, tu peux jouer ou bien pour les parties débutantes où tout le monde est humain, Enfin, oui. Tu joues chacun joue son clan, mais oui. C'est tous des humains. Et après, quand tu maîtrises le jeu, tu passes aux espèces aliens. C'est oui. Pareil.
Tu ouais, peux démarrer. Bon, là, tu peux démarrer avec ce que.
Mais tu peux faire que des humains ou bien tu peux faire avec des aliens.
Tu fais ce que tu veux.
D'accord.
C'est ce que tu veux, et en plus, c'est bien parce qu'en fait, quand tu regardes les races, tu peux dire, bah voilà, les humains.
Oui, ils te montrent le bonus visuellement.
Voilà, ils ont des starbase, et en plus, au niveau de l'échange, le niveau d'échange est bas. Puis ils te disent avec quelle planète, type de planète tu vas commencer. Voilà, Mécana, ils ont plus 2 en computer, 3 en trade, etc. etc. Donc. La prise en main, elle est assez simple. Elle est bien faite par rapport à la complexité du jeu. C'est-à-dire que un jeu très complexe, très difficile à... Enfin, il est quand même pas simple.
Je pense que de tous les jeux qui ont été portés, c'est un des plus complexes, effectivement. Ouais. Hein. C'est comme un 4X. C'est comme du jeu costaud, quoi.
Et ça va, quoi. C'est bien fait. Après, le jeu en lui-même, donc j'ai parlé de l'interface, la première chose dont j'ai parlé, parce que c'est le plus important. On voit tout. On a tout à portée de la main. Il n'y a rien qui est caché, les tours se font, c'est compréhensible, on sait qui joue. Au niveau des hexagones, ils sont bien marqués, donc il y a des couleurs qui sont très différenciées. Tu as du mauve, du rouge, du vert, enfin tu as des couleurs, tu vois, on voit bien en fait.
Ah ouais, influences. C'est super, moi j'aime bien, visuellement c'est très bien.
Et quand tu pinches en fait, quand tu réduis ton écran, t'as pas tout sur ton écran, mais tu vois bien en fait quelles sont les zones qui sont contrôlées par qui en fait. Et ça marche très bien. Donc t'as tout sous la main et ça se passe bien. T'as un reminder sur une petite aide de jeu pour savoir combien de colonisation il te reste. Si tu veux faire des échanges, il te permet de le faire. Donc
c'est vraiment fait pour ça. Tout a été testé, etc. Ouais. Tout a été.
Il y a un doux. Oui.
Ouais. Je voulais savoir si tu pouvais jouer à plusieurs sur même iPad.
Oui, tout à fait.
En te le passant.
Tu peux passe via iPad ou alors via le Game Center, tu peux jouer à plusieurs aussi.
Ouais, mais c'était en local là, ça, si tu pouvais.
Donc rien à dire, Big Daddy, ils font les choses bien. Au niveau graphique.
Attends, je t'ai coupé, mais tu disais qu'il y avait un undo.
Ouais,
c'est pas mal parce que c'est pas dans tous les jeux. Et dans ce genre de jeu, je pense que c'est appréciable parce que une partie, ça doit être un peu long.
C'est même le problème, et je dirais, enfin, le problème, c'est quand tu fais, voilà, tu fais une exploration, t'as la possibilité de rejeter ou de garder. Bon, ok, reject.
Ouais, c'est-à-dire que du coup, l'exploration, une fois que tu as vu que c'est pas intéressant, tu peux du coup dire que tu veux pas la faire.
Tu peux tricher.
Mais est-ce que ça te redonne le même résultat, tu sais pas.
Ouais, si, ça donne le même résultat.
Ah ouais.
Mais tu peux revenir en arrière et tu peux dire, bah non, je veux pas le faire. Bon, après, ça veut dire que tu reviens au début de ton tour et c'est pas plus mal,
ouais.
Quoi.
Ouais.
C'est pas plus mal, mais après, à toi d'être un peu intègre avec toi-même et de dire, soit je joue en trichant et je gagne pas.
T'es un vrai joueur, donc tu triches pas.
Ouais. Voilà, donc pour résumer, Eclipse, c'était un bon jeu. C'était un gros jeu et c'était une. Quand même.
C'est un challenge de faire le portage. Ouais, ouais. Ça fait un moment qu'on en parle dans les news, en tout cas, qu'il était annoncé, que, etc., qu'on voyait juste des visuels.
Et en fin de compte, c'est une vraie belle réussite.
T'as pas vu de bug particulier ?
Non. Non, non. Ouais. Non, ça marche.
Ils ont fait confiance là-dessus. Ils ont fait.
Ça marche très très bien, il n'y a rien de spécial.
C'est un gros morceau quand même, hein, à programmer ça.
Ouais, et puis après, tu as le choix en fait. Au niveau des IA, tu peux jouer, tu peux faire une partie, soit online game, soit local game. Quand tu dis local game, tu peux jouer jusqu'à 6. Tu peux dire, bah voilà, Peaceful AI, Normal AI ou Hardcore AI, donc 3 niveaux de.
Et toi, t'as testé quoi ? Peaceful, et c'est déjà.
Moi,
difficile.
Peaceful, parce que de toute façon, les premières parties, j'en suis encore. J'ai encore pas fini, mais
il faut maîtriser le jeu. Ouais.
Parce que j'y joue de temps en temps, et si tu. Enfin, voilà, t'as déjà beaucoup à faire avec toute l'interface. Quand tu choisis tes AI, il va te dire quelles particularités ils ont. Tu peux. Enfin, je pense qu'il faut un minimum quand même de d'adversaires parce que sinon c'est pas drôle.
Oui, oui.
Mais voilà quoi.
Et combien de temps une partie du coup tu penses ?
Assez long.
C'est long, hein ? Ouais.
Assez long. C'est-à-dire que. Après, comme tu peux. Alors, contrairement au tutoriel, ta partie tu vas la reprendre. C'est-à-dire que tu peux couper le processus.
Oui, oui.
Et il la garde.
Ouais, mais il faut que tu te replonges un petit peu. Parce que. Un Puerto Rico, par exemple, tu joues contre des IA, tu fais une partie en 10 minutes quoi, sur l'iPad, c'est l'avantage. Mais un truc comme Eclipse, je pense que 10 minutes, ça suffit pas. faire ta partie.
Non, 10 minutes, non, c'est pas possible.
Ouais, il y a trop de choses.
C'est très visuellement, ça marche très bien aussi. Tu sais ce que font les autres. Même quand ils ont. Enfin, là, j'ai coupé, j'ai demandé à ce qu'ils aillent vite. Donc, ouais, tu vois plus. Donc, tu peux débrayer aussi le système de dire on me montre exactement ce que font les autres joueurs. Et voilà, voilà. 5,99€.
Ouais.
Chez Big Daddy, tout en anglais. Un gros jeu, ça peut vous permettre de savoir. Encore une fois, ça peut vous permettre de savoir si vous avez envie de jouer à Eclipse ou pas. Ça peut vous permettre d'apprendre les règles Eclipse, même si dans la boîte de base, après, il va falloir retrouver tout. Ça peut vous permettre de vous familiariser avec toutes les différentes technologies, les différentes races, de faire des essais de stratégie. Parce que bon voilà quoi, d'être plutôt exploration, plutôt offensive, plutôt défensif. Tu vois, c'est.
Moi, je vois beaucoup les jeux sur tablette que pour tester les stratégies. Puerto Rico, j'ai testé plein de choses comme ça avec le jeu sur tablette.
Et donc, j'approuve.
On avait compris, je crois.
Voilà.
Pas pour tous les joueurs non plus.
Non, pas pour tous les joueurs, mais même pour 6€. Enfin, si t'es pas. Très à l'aise avec les jeux de les 4X ou les jeux un peu velus, ben tu peux te lancer dedans et là t'as le temps de prendre en compte, t'as le temps de lire les règles, t'as le temps de toi, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que t'es pas stressé quoi, et puis t'as surtout le temps de faire des erreurs, c'est-à-dire que même si tu fais une ou deux, là le problème c'est que tu peux n'avoir qu'une partie en cours. Donc,
oui, c'est ça,
tu peux pas dire, bah voilà, je vais en faire une, je vais en faire deux ou trois.
Faut deux, trois iPads.
Mais d'un autre côté, c'est pas non plus très conseillé de diversifier.
Non, tu peux pas, après tu mélanges. Ok.
Voilà. Donc, pour conclure, Eclipse, qui a été porté par Big Daddy Creation, en anglais, assez velu, mais assez intéressant et. Si vous avez envie, si vous êtes tenté pour essayer Eclipse, et si vous avez envie de l'essayer sur le table, mais vous ne savez pas si ça va vous plaire, c'est vraiment l'occasion rêvée. Et si vous avez des parcours un petit peu longs, si vous prenez le bus, ou si vous prenez le RER ou les transports en commun, que vous avez envie de déconnecter, je pense que c'est assez, assez ultime.
De mon côté, je vous présente Las Vegas. Alors, c'est tout l'inverse d'Eclipse. Hein. C'est vraiment le jeu.
Nominé Spiel des Sierras.
Nominé Spiel des Sierras l'année dernière. C'est un jeu de Rudy Gordon qui a produit déjà quelques beaux jeux comme Goa, par exemple. Mm-hmm. Là, c'est chez Ravensburger. C'est un jeu de dés. Tout ce qu'il y a de plus aléatoire possible. Qui n'a pas le fun d'un strike, par exemple.
Tu ne peux pas lancer tes dés sur la tablette.
Non. Alors, le jeu, on peut lancer. C'est un jeu, en fait, le but du jeu. On va jouer sur, je crois que ça joue sur 4 tours. En fait, le concept, c'est il y a des hôtels. Alors, j'adore le jeu parce que j'ai dit que je ne jouais pas le tutoriel, mais il me le donne quand même. Le concept, en fait, il y a 6 hôtels sur lesquels il va y avoir des prix qui vont être distribués aléatoirement. Mmh. On va lancer ces dés. On a 8 dés à lancer, on lance les 8 dés. Et en fait, à chaque valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspond à un hôtel. Là, par exemple, j'ai fait un lancer de dés. J'ai 3 dés qui ont fait 5. J'ai 2 dés qui ont fait 1 et un dé qui a fait 3 par exemple, j'en ai d'autres mais. Et si je choisis par exemple d'utiliser mes dés qui ont fait 5, les 3 dés, dans ce cas je perds ces 3 dés là, je pourrais plus les relancer. Mm-hmm. Mais du coup je prends une sérieuse option pour gagner la prime qui est sur cet hôtel là, de 60 000. Par contre perdre 3 dés pour 60 000 ça vaut peut-être pas le coup, donc je vais prendre plutôt un seul dé sur l'hôtel 4 qui me rapporte peut-être 90 000.
Mais c'est comme stop ou encore
Non, parce que j'ai lancé une fois mes dés et mon adversaire va lancer ses dés. Donc il va les lancer. Alors heureusement, il y a un mode accéléré. Il a lancé ses dés et il va choisir l'option. Voilà, lui, il met 3 dés sur le même hôtel que
et
moi.
C'est joliment fait, ces animations.
C'est super beau. Les animations sont belles. Je les trouve à longue. C'est finalement un peu long parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est lancer tes dés et les placer.
Ah, mais attends, tu peux les lancer comme ça? Tu peux les pousser?
Ouais, il faut pousser en fait. Tu pousses les dés avec le doigt.
Un seul?
Non, tu pousses tous les dés, il faut les lancer. Donc voilà, donc par exemple, hop, tu choisis. C'est très facile, hein. L'interface est très simple parce que tu as juste poussé les dés, après tu choisis l'hôtel et tu valides. Heureusement, quand l'adversaire joue, tu as un mode accéléré. Moi j'aime bien parce que quand en plus ça accélère, ça fait. On va dire comment ça fait une sorte d'interférence sur l'écran, comme sur
comme
une caméra.
Comme quand on avait un magnétoscope.
Ouais,
ouais.
Ça, c'est le côté un peu pour se rendre compte que tu appuies en mode accéléré. Mmh. Voilà, après c'est un jeu assez aléatoire. Ce que je reproche, moi, c'est que au niveau des choix, c'est pas. Il n'y a finalement pas tant de choix que ça à faire dans la partie. Hein. En général, les options sont assez simples. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a lancé tous ces dés, une fois que tous les joueurs ont placé leurs 8 dés, c'est la fin du tour 1 et on procède à la distribution des gains. Donc, celui qui a mis la plus grosse valeur, enfin, celui qui a mis le plus de dés, par exemple, j'ai mis 3 dés sur l'hôtel 6 et mon adversaire en a mis que 2, moi, je rafle la prime, la principale, la première, par exemple, 80 000. Et lui, il est deuxième, l'ordinateur, par exemple, il avait 20 000 de prime, il prend 20 000.
Donc, tu veux dire que juste... C'est un nombre de dés et celui qui en a le plus, il a gagné.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Et tu, en fait, ton seul choix, c'est bah voilà, t'as lancé les dés et en fonction des résultats qu'ils ont donnés, tu choisis où est-ce que sur quel hôtel tu les places. À chaque fois, tu peux choisir qu'un seul hôtel. Alors le pire des trucs, c'est comme ça m'arrive là, il me reste deux dés, j'ai fait un double 1, j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre sur hôtel 1. Je suis foutu là, je peux plus rien faire. Mon adversaire, il lui reste encore deux dés, lui va pouvoir jouer. C'est la fête du slip. Si lui il fait par exemple 3 et 5, et bah, il va rafler les hôtels 3 et 5 sans se fouler.
Waouh.
Voilà, c'est un jeu intellectuel. C'était nominé au Spiel quand même.
Non, mais ça, c'est un jeu à boire, mais sans boisson, quoi.
Voilà, mais c'est un jeu rapide. Alors, après, ce que je pense du jeu, c'est-à-dire, encore une fois, c'est un peu comme Smash Up, c'est pas un jeu pour moi. Je vais pas jouer à ça sur mon iPad très fréquemment. Par contre, à jouer, par exemple, je sais pas, dans les transports. Ah, ça marche, c'est une application universelle. Hein. On peut jouer sur l'iPhone, sur l'iPad pour le même prix. Donc, déjà, ça va mieux se prêter à être joué sur. Sur un terminal, enfin je sais pas, sur une partie rapide, comme dans le bus ou des choses comme ça. C'est aussi fait pour être joué plutôt au niveau familial quand même. Donc là-dessus, ça marque des points. Là-dessus, c'est plus agréable. Après, il y a un mode en ligne aussi, a priori, avec pas mal d'options disponibles. J'ai pas testé, je suis pas très friand du jeu en ligne, mais on peut faire ça. Le portage est quand même impeccable. Intrinsèquement, le jeu est faible. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un gros intérêt. Non, mais soyons clairs. Le 1, je préfère largement Can't Stop, qui est également porté sur iOS d'ailleurs, que Las Vegas. Par contre, au niveau de la réalisation, je mets beaucoup Can't Stop. Il faut avouer que Las Vegas, c'est très beau.
C'est ça.
Ils ont vraiment soigné le graphisme, etc. Moi, ce que je reproche, c'est la lenteur un petit peu des animations, quand même. C'est-à-dire que là, je vais jouer. Par exemple, là, c'est mon adversaire à jouer. Alors, j'appuie même en appuyant sur avance rapide. Parce que je m'en fiche, en fait, de savoir ce qu'il joue. Ce qui m'intéresse, c'est juste replacer mes dés suivants. Bah voilà, il se passe du temps, il faut attendre l'anniversaire, après il faut le temps que mes dés roulent, et après, enfin, je peux choisir. Donc au début, on est content, on regarde les animations, tout ça, puis au bout d'un moment, non, c'est pas le bon choix. Voilà, par contre, une partie, c'est...
5 minutes.
Ouais, c'est 5 minutes, quoi. Il y a quand même 4 tours, c'est un peu long, j'aurais fait 3 tours, j'aurais préféré, mais... Voilà, donc du total random, avec des choix assez basiques. Les IA, qu'elles soient en mode facile, difficile ou machin, de toute façon, j'ai pas senti de différence... Il faudrait surtout avoir un mode cheat.
Mais attends, tu te lances les dés et tu mets les dés sur les hôtels en fonction du...
De leur valeur, en fait. 1, 2, 3.
Et quel est le choix, alors ?
Eh ben là, je choisis. Donc, j'ai un dé en valeur 1, deux dés en valeur 4 et deux dés en valeur 5. Je choisis sur quel hôtel je vais les placer. C'est tout, par rapport au gain que je peux escompter. Par exemple, je vais les mettre là. Comme ça, je vais griller l'adversaire. Tu vois, je suis devant lui. Comme ça, c'est peut-être moi qui aurais 70 000 et pas lui. Voilà. Mais les choix, ils sont triviaux, hein. C'est pour ça que je dis que c'est plus familial, parce que ça marchera peut-être mieux avec des enfants.
Ouais.
Et là, regarde, l'ordinateur, il s'est fait avoir, parce que du coup, lui, il peut plus mettre ses dés, là. Et moi, il m'en reste encore deux à lancer.
Mais les 1, t'es obligé de les mettre sur l'hôtel 1 et les 6 sur l'hôtel 6.
Oui, c'est ça. Ah oui. Choix très faible.
Mais quel est le choix ? Je ne comprends pas ce jeu.
Mais il n'y a pas de choix, tu choisis juste l'hôtel. Et il y a un mode variante qui
mais
permet
quel hôtel,
de lancer des dés
puisque,
neutres.
Puisque tu es obligé de mettre le 6 sur l'hôtel 6 et le 1 sur l'hôtel 1.
Oui, mais tu choisis. Tu choisis si tu, sur quel dé tu perds. Si tu mets justement tes dés sur l'hôtel 6 ou le 1.
Wow.
Voilà, c'est tout, c'est le seul choix.
D'accord.
Le YAM, c'est peut-être plus intéressant.
T'as gagné ?
Voilà. Là, je joue contre une IA. Non, mais à la fin du tour 2, j'ai déjà deux fois plus de points que mon adversaire. Je n'ai pas fait grand-chose, hein, c'est juste le hasard. J'ai forcément placé aux manières optimum à chaque tour et voilà. C'est tout. Par contre, le jeu a un avantage quand même indéniable par rapport à Eclipse.
T'as dit qu'il était court et qu'il est moins cher.
Ouais, déjà. Et il y a un autre, il se joue en français.
Ouais. Quand j'ai jeté un œil sur. Je viens de jeter un œil sur Porto Rico et Porto Rico était en français. Et tu dis Eclipse en fin de compte.
Ravensburger fait l'effort de traduire tous ses jeux en français. Ouais. C'est à saluer parce que c'est très. Enfin, c'est pas mal. C'est vraiment très agréable. Là-dessus, je n'enlèverai pas. Donc, Las Vegas, c'est un jeu de Rudy Gordon porté par Ravensburger Digital et c'est vendu 2,69€ en version universelle, donc iPad, iPhone. Évidemment, c'est pas pour le même public que Eclipse. Maintenant, ça marche très bien, à mon avis, pour jouer avec des enfants dans le transport ou des choses comme ça. Une petite partie rapide. Pourquoi pas.
Et puis, Jérémy, ce soir, avant de finir, je voulais te parler de quelque chose. Est-ce que tu connais ça ?
on a space team. Get ouais, ready for the space team. Yay.
Je connais à travers ce que tu m'as fait jouer ce soir, sinon je connaissais pas.
Ouais. Donc je vous conseille à tous qui êtes possesseur, europossesseur d'un US, de télécharger l'application Space Team. L'application Space Team, c'est juste une petite application de communication. Je vais couper la musique.
Mais pas n'importe quelle communication.
Non, c'est en fait en état de stress. Donc l'idée, c'est qu'on est dans un vaisseau, qu'on a des boutons, des contrôles, des choses à mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des choses qui vont changer au fur et à mesure des missions. On a plein d'émissions. Et l'idée, c'est qu'on va dire aux autres ce qu'ils vont devoir faire, et en fait on a des instructions soit pour soi soit pour les autres.
Appuyer des boutons, mettre des niveaux, c'est, en fait c'est comme dans les séries télé, tu sais, quand c'est en état de panique.
Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, tu vas avoir la possibilité soit d'avoir des astéroïdes, enfin secouer ton device. Et là, ça, c'est un peu le seul défaut que je trouve à l'application. Quand tu secoues ton device, en fait j'ai mon iPhone, j'ai le doigt sur le bouton de mise en veille, et quand je mets en veille, ça coupe la communication et donc ça réinitialise la partie. C'est extraordinaire, c'est super, on peut jouer à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, ça devient complètement n'importe quoi au bout du compte, mais
les noms des boutons des commandes n'ont rien à voir forcément, c'est pas compréhensible.
Et on n'est pas allé jusqu'au bout parce que j'ai coupé au milieu, mais ce que t'as pas vu, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des symboles, ce n'est plus... ce n'est plus ta gueule,
un truc à la machin, con, c'est space machin, ouais, voilà,
c'est des symboles.
Et en fait, c'est un parfait pour un vrai jeu de communication. En fait, c'est Space Alert version différente, quoi, version
et en temps réel.
Ouais.
Donc, ça s'appelle Space Team, c'est gratuit sur iOS. Après, vous pouvez acheter des upgrades pour 0,99. Ça leur permet de vivre, j'espère. C'est cool. Cool.
Très très bien, c'est un jeu de société, mais c'est génial, effectivement. On a
un mode 8 joueurs.
Oh
on a un mode mystery mode.
Enfin, bon, c'est à jouer en local. Hein.
Ça.
Pas jouer à travers la 3G.
Non, ça joue soit en Bluetooth. Voilà, c'est juste. Voilà,
il se télécharge sur mon iPhone.
Voilà, donc Space Team, j'ai été happé par la réalité Space Team, parce que j'ai regardé en fait ce qu'on pouvait leur laisser. On se demande quel est le modèle économique. En fait, je pense que c'est juste, il faut
acheter
leur extension. Et c'est une très bonne idée. Au bout d'un moment, il y a plein de trucs qui commencent à se casser la gueule. Il faut, en plus d'écouter ses voisins, remettre droit les trucs.
Les boutons,
très bien la partie tactile. C'est du slim qui descend. On voit plus comment s'appelle le panneau de contrôle. Enfin, voilà, c'est super. Ça se joue à plein et je vous le recommande. Space Team, c'est gratuit sur iOS.
C'est la fin de cette merveilleuse phase B.
44.
Du 44e épisode.
Je sais pas combien on en a fait en tout.
En fait, j'ai regardé tout à l'heure ce que je me suis posé la question. À l'heure actuelle, on a 101 publications, tout compris, c'est avec les chroniques des différents intervenants. Donc en rajoutant la face, ça faisait 102. Et nous, ça fait donc là, c'est le 103e épisode depuis un peu plus de 2 ans.
Numéro 103, pas mal. Avec les chroniques de Deschutes, avec les quelques chroniques de Plane, de.
Isobretnik.
Et de Fenduel. Alors, on va changer certainement, on souhaite changer de format l'année prochaine, on vous en reparlera. On vous rappelle le concours Love Letter, on vous rappelle aussi le chat J2S, chat.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. On aura communiqué dessus, mais on vous invite à aller faire un tour, à nous dire en 140 caractères, à déclarer en 140 caractères. Votre flamme pour votre jeu préféré.
Pour gagner Love Letter.
Pour gagner un Love Letter dédicacé par Sanji Kanai himself. Et puis voilà. Donc avant l'été, il y aura un 45 et sans doute un numéro 46.
Voilà. Pendant l'été, le 46.
Et le 46, oui, parce qu'on va le faire avant avant les vacances. Mais je pense que comme on a allongé considérablement les délais de parution ces derniers temps, ça sera pour l'été. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on souhaite. Améliorer pour l'année prochaine, mais on en parlera bientôt. Et d'ici là, jouez bien.
À mon tour de vous parler de Smash Up.
À ton tour.
À mon tour.
À mon tour.
À mon tour. D'accord. Bon, on recommence.
Vas-y. Et si vous avez un peu le temps, un peu plus qu'un petit caca aux toilettes, vous pouvez...
Non, ça, je vais le couper. Je ne toucherai pas ton iPad.